Attention, moteur.
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
Have you ever had a dream yet?
Une chaise longue et un étang avec des canards. C'est con les canards, mais ça fait cossu.
Play it once, Sam. For all time's sake.
Encore? Ma pas les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois.
Bonjour à tous, bienvenue dans CinéZoom, l'émission qui parle cinéma, concoctée par l'association KinoZoom. Alors moi c'est Rémi Ratinska, directeur du Festival du film de Fontenay-le-Comte, pour vous servir, et j'ai le plaisir d'inaugurer une série d'émissions que l'on qualifiera d'épisode hors-série, puisque ne sera pas déroulé le menu habituel. En effet, un seul sujet aujourd'hui, et pas n'importe lequel, sujet puisque nous allons traiter exclusivement de Louis de Funès, auquel nous rendons hommage à l'occasion du 12e Festival du film de Fontenay-le-Comte, à travers la diffusion de trois films, La Traversée de Paris, Les Aventures de Rabbi Jacob et L'Aile ou la Cuisse, ainsi qu'une exposition d'affiches originales de ses plus grands films. Et cet hommage, nous avons souhaité le rendre en compagnie de Mathieu Jaja, ici présent, auteur de Louis de Funès, La Traversée du Siècle, paru aux éditions Priva en octobre 2023. CinéZoom hors série numéro 1, c'est parti. Alors Mathieu Jaja, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Alors tout d'abord, je vais vous présenter auprès de nos auditeurs. Après des études en histoire, vous devenez historien, conférencier, rédacteur pour différents magazines d'histoire spécialisés, ainsi qu'auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages, notamment autour de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Et vous ne cachez pas votre passion pour Charles de Gaulle, et à ce titre, et compte tenu de votre expertise, vous avez eu l'opportunité de diriger pendant plusieurs années le mémorial Charles de Gaulle à Colombey, les deux églises. Mais Mathieu Jaja, vous êtes aussi un passionné de cinéma et vous reliez à votre domaine de prédilection, l'histoire, et vous êtes l'auteur de l'ouvrage De Versailles à Paris, l'histoire selon Sacha Guitry, paru en 2021, et Louis de Funès, La Traversée du Siècle, paru en 2023. Alors Mathieu Jaja, pour commencer cet entretien, il faut nous dire comment vous en êtes arrivé à vous passionner pour Louis de Funès. Je crois qu'il y a une sombre histoire de VHS là-dessous.
Oui, je pense que comme beaucoup d'enfants, Louis de Funès m'a marqué. J'ai été bercé par certains de ses films diffusés en première partie de soirée sur les grandes chaînes de télévision dans mon enfance. Et effectivement, à l'âge de 10 ans, un soir, mon père avait demandé à ma maman d'enregistrer un film parce qu'il devait s'absenter. Et le film était diffusé sur la troisième chaîne, c'était Le Cornio, le fameux film de Gérard Oury. Et le hasard fait que, bon, évidemment, ma mère s'est exécutée, a enregistré ce film. Je suis tombé sur cette VHS quelques jours plus tard. Je l'ai visionné, je ne connaissais pas du tout le film, qui m'a beaucoup fait rire. Et j'ai demandé à conserver cette cassette, parce que vous savez, généralement, c'était le principe des vidéocassettes. On effaçait pour réenregistrer dessus indéfiniment. Et cette vidéocassette, je l'ai conservée. Le Cornio est devenu le premier film, entre guillemets, de ma collection, puisque j'essaye, en tout cas, je veille à pouvoir collectionner l'ensemble des films tournés par Louis de Funès. Je mets un point d'honneur à y parvenir, j'espère y parvenir. Et Le Cornio a été ce premier film, cette première rencontre avec Louis de Funès.
Très bien, bon, je pense qu'on sait tout. Alors à présent, rentrons dans le vif du sujet et commençons par le commencement. Donc Louis de Funès, né Louis-Germain David de Funès de Galarza, ouais, voit le jour à une date tout à fait particulière, hein, qui est sans doute symptomatique du titre de votre ouvrage. Je le rappelle, Louis de Funès, La Traversée du Siècle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son entrée dans le monde est loin de la comédie à laquelle on associe forcément de Funès.
Oui, parce que Louis de Funès est venu au monde le 31 juillet 1914. Alors pour certains historiens, ça évoque forcément quelque chose, ou pour ceux qui aiment l'histoire, c'est le jour même de l'assassinat du leader socialiste Jean Jaurès. Louis de Funès est né à Courbevoie. Jean Jaurès est assassiné une vingtaine d'heures après la naissance de Louis de Funès à Paris, au Café du Croissant. Et le lendemain, le 1er août, c'est le commencement de ce que personne ne pouvait encore soupçonner, la Première Guerre mondiale. Donc, on a toujours considéré, les historiens ont toujours considéré que le XXe siècle a commencé le 1er août 1914. Quand on rentre dans la Première Guerre mondiale, c'est le début du XXe siècle. De fait, Louis de Funès est né à l'aube du XXe siècle, dans cette dernière journée de ce que l'on a par la suite appelé la Belle Époque. Donc voilà, le hasard a fait qu'il est venu au monde à une date éminemment historique.
Et alors après, bon, la vie de famille n'est pas toujours très simple. Hein. Je crois que le père est un peu particulier. Après, on enchaîne sur des petits boulots. et vient quand même relativement tôt le théâtre et le piano aussi.
Oui, il a le goût de la musique, il sait très bien reconnaître des morceaux de musique, il est capable même parfois de les jouer au piano, même s'il n'a jamais appris finalement la musique, il n'a jamais appris le solfège. Et puis effectivement le goût des planches, il aime bien faire rire déjà à la base son frère, sa sœur qui sont plus âgés que lui, ensuite ses amis, il a une fibre artistique qui s'explique difficilement puisqu'il n'y a pas d'atavisme familial, il n'y a pas des parents qui sont dans le milieu artistique, mais Louis de Funès sent qu'il a une appétence et surtout il considère qu'il a un talent puisqu'il arrive à faire rire. Et ça, il s'en aperçoit dès son enfance et donc... Généralement, les passions qu'on développe dans son enfance, ben, on a envie par la suite de les poursuivre une fois à l'âge adulte, et c'est ce qu'il va faire.
Alors là, j'avance un petit peu, mais il y a donc un peu plus tard une rencontre assez déterminante avec Daniel Gélin.
Ils se rencontrent d'abord, ils avaient suivi les cours Simon à Paris, c'était dans les premières années de la fin des années 30, début des années 40, mais là ils n'ont fait que se croiser, parce qu'en fait Daniel Gélin, bien que 7 ans plus jeune que Louis de Funès, est déjà happé par le cinéma et commence à tourner des films. Et donc, ils ne se sont pas beaucoup rencontrés à cette occasion. Mais en fait, ils se recroisent quelques années plus tard. Ça doit être en 1943, dans une station de métro. Et voilà, la vie est toujours faite comme ça, de hasard, de rencontres, de moments peuvent déboucher sur quelque chose de plus important. Et lorsqu'ils se croisent dans cette station de métro, eh bien, Daniel Gélin se rappelle de Louis de Funès, se souvient de lui, lui dit « Mais on s'était croisés, je crois, au cours Simon, il y a quelques années. » Et c'est là que Daniel Gélin lui propose de jouer dans une pièce de théâtre qu'il est lui-même en train de mettre en scène. Et Louis de Funès hésite parce qu'au même moment, il joue dans des bars où il joue au piano pendant 12 heures d'affilée. Donc, il est très déjà absorbé par ce travail-là. Mais néanmoins, il se laisse convaincre d'accepter de jouer une petite pièce de théâtre. Le nom m'échappe d'ailleurs, mais enfin, bon, qui a été joué devant très très peu de monde. Mais ça a été finalement son premier contact artistique. Et ensuite, il y aura l'expérience cinématographique, toujours grâce à Daniel Gélin.
C'est ça, et je voulais justement en venir là. Donc, une première apparition dans La Tentation de Barbizon de Jean Stély, un film de 1946 qui aborde sur le ton de la comédie la lutte d'influence entre le diable et l'ange pour désunir ou faire approcher un couple. Et donc en 1946, De Funès a déjà plus de 30 ans et joue le rôle d'un portier.
Bonsoir, mademoiselle.
Merci,
monsieur.
Merci, monsieur.
Ah, si, ça ne l'en fait la peine. Tu vas voir.
Celle qui chante dans mon cœur. Voici la proche.
Là, il a son compte, celui-là, aujourd'hui.
Alors l'homme qu'on entend au début, hein, c'est Pierre Larquet qui joue un patron d'auberge dans laquelle se joue l'intrigue. Hein. Et à la fin, vous avez peut-être reconnu De Funès. Alors c'est très très court. Hein.
Une réplique. Ben, il a son compte celui-là aujourd'hui parce qu'en fait Pierre Larquet se cogne contre la porte quand il veut rentrer dans ce restaurant. Donc Louis de Funès pense qu'en fait il est alcoolisé. Il dit ben, il a son compte celui-là aujourd'hui. La première réplique cinématographique de Louis de Funès. Pour l'anecdote, il avait raconté par la suite que son apparition est tellement furtive dans le film qu'il avait déclaré « si le spectateur éternue à ce moment du film, il ne me voit pas ». Donc il n'y a pas intérêt à se moucher ou refaire son lacet de chaussures au même moment parce qu'il ne fait qu'apparaître très 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 brièvement. Mais effectivement, c'est la première apparition cinématographique de Louis de Funès, alors âgé de 31 ans.
Et donc s'en suivra hein, de nombreuses figurations, des rôles de silhouette. Hein. Alors Sacha Guitry hein, notamment lui propose quelques petits rôles notamment.
Oui absolument, dans La Poison en 1951, surtout dans La Vie d'un honnête homme tournée l'année suivante, où là Louis de Funès a quand même un rôle un peu plus conséquent auprès de Michel Simon qui est un immense acteur à cette époque-là, mais Louis de Funès est évidemment très impressionné, comme on ne le serait pas moins, de tourner sous la direction de Sacha Guitry. Mais il faut croire que Sacha Guitry a peut-être décelé chez lui un talent comique. Et donc De Funès a tourné Par la suite aussi dans Si Paris nous était compté en 1955, sa dernière expérience sous la direction de Sacha Guitry. Mais c'est vrai que pendant cette période-là où il n'arrête pas de tourner quantité de films dans lesquels il fait souvent ou de la figuration où il a deux, trois répliques, il se constitue un joli réseau parce qu'il le côtoie quand même Michel Simon, il côtoie Louis Jouvet, il rencontre Fernandel, il est dirigé par Sacha Guitry. Donc il arrive comme ça à faire son trou, si j'ose dire.
Et en 1956, les choses commencent à devenir un peu plus sérieuses avec La traversée de Paris de Claude Autant-Lara. Alors le film se déroule sous l'occupation, hein, Marcel Martin, Bourville, brave homme au chômage, doit convoyer à l'autre bout de Paris quatre valises pleines de porcs. Son acolyte habituel ayant été arrêté, il fait appel à un inconnu, Grand Gilles, Gabin. Mais celui-ci se révèle vite incontrôlable et le trajet périlleux. Alors De Funès joue l'épicier Jambier, qui fournit la marchandise dans une scène assez culte. Et il offre une prestation marquée, bien qu'assez courte, face à Jean Gabin et Bourville, prestation qui esquisse en quelque sorte son futur personnage.
Dites-moi, monsieur Jambier, maintenant qu'on est copains, si on me demande des renseignements sur votre cochon, d'où vient-il?
Monsieur Grandgilles, je m'en remets à votre honnêteté. Et pour le reste, à la grâce de Dieu. Mais pensez à ce que j'ai fait pour vous. Tenez, un petit paquet de gauloises, là, pour le trajet. Il en manque que deux.
Et il lui donne des cigarettes, maintenant.
Oh! Qu'est-ce qu'il y a encore?
Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus.
C'est sérieux?
Comment si c'est sérieux?
Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout!
Je donne 1000 francs, nom de Dieu, Jambier! Jambier, 2000 francs!
Rien du tout! Je lui casse la gueule!
Jambier, je veux 2000 francs! Jambier, 45 rue Palimo!
Oui, oui, on le sait! Plus un franc, plus un sou!
Mais laissez-moi le descendre!
Jambier! 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 Jambier!
Non, c'est rien,
ça s'arrange. Monsieur Jambier, je vous préviens qu'il me faut encore...
Tenez,
tenez.
Et moi?
Plus rien,
ça va.
Et maintenant,
hein?
Allez-vous-en. Ah ben. Allez-vous-en. Ça, je vous assieds, hein. Allez-vous-en, allez, hop.
Et moi?
Allez.
Et moi?
Allez-vous-en.
Et moi?
Moi et vous?
Ben, on avait dit 450.
Bon, j'en ai déjà donné 5000. La caisse est fermée, allez hop, démerdez-vous.
Il ah, faut tenir hein, face à Bourville et surtout face à Gabin, hein, mais il ne démérite pas quand même. Hein. Et donc, bon, Mathieu Jaja, là, on peut dire que la carrière cinématographique commence à se lancer là quand même.
C'est un tournant parce que Claude Autant-Lara avait déjà fait tourner Louis de Funès 3 ans plus tôt dans un film qui s'appelait Le blé en herbe, une adaptation d'un roman de Colette, mais Louis de Funès n'avait qu'un petit rôle. Mais là, La traversée de Paris, il y a deux choses. C'est qu'à la fois, effectivement, vous venez de l'indiquer, les deux partenaires sont quand même Bourville et Jean Gabin, ce qui n'est pas rien. Et de surcroît, c'est un film de qualité. La traversée de Paris est un véritable chef-d'œuvre. Donc, les deux réunis, la direction de Claude Autant-Lara, Bourville et Gabin comme partenaires, un véritable chef-d'œuvre, permet vraiment à Louis de Funès de sortir de l'ombre, parce que sa prestation n'est que de l'ordre de 12 minutes dans le film, mais il arrive vraiment à se hisser, au moins s'agissant de la scène qu'on vient d'entendre, à se hisser au même niveau que Bourville et Jean Gabin, et c'est ce qui fait que maintenant, à l'époque, quand le film sort, on parle surtout du duo Gabin-Bourville, et aujourd'hui, quand on pense à La traversée de Paris, on pense au trio Gabin-Bourville-Louis de Funès, alors même que son rôle est moins important que les deux autres. Mais c'est vrai que là, c'est un tournant considérable dans sa carrière, et je ne sais pas s'il le perçoit à ce moment-là, mais il s'avère que dans les 2-3 années qui vont suivre, on lui fait quand même déjà des propositions beaucoup plus intéressantes. Oui.
C'est ça, bah notamment on a Pouic Pouic hein, en 63 de Jean Giraud, il s'agit de sa première collaboration avec Jean Giraud pour le cinéma. Hein, ils se connaissent déjà, puisque De Funès a joué un petit rôle dans la pièce Sans cérémonie, dont Pouic Pouic est l'adaptation. Mais c'était pas gagné hein, pour autant pour les producteurs. Hein. En effet, ils ne veulent pas vraiment de cet acteur, bon, encore qualifié de seconde zone, qui n'a fait que de petites comédies, bon, avec un certain succès, mais assez faible. Et il préféra à sa place un Darry Cole, hein, qui a tourné dans les précédents films de Giraud, notamment, ou Francis Blanche, hein, qui sont plus bankable, hein, comme on dirait
c'est ça,
aujourd'hui.
C'est ça.
Mais Giraud s'accroche et décide même de créer sa propre société de production, un story film, avec Jacques Wilfried, hein, qui est l'auteur du film, pour le financer. Et il s'associe à un autre producteur et ils parviennent quand même à leur fin. et finissent par réaliser ce film. Et en 64, il tourne Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas et Le Corneau. Donc on écoute justement un extrait de Fantomas où le commissaire Juve de Funès mène un interrogatoire musclé face à un interlocuteur tout à fait détendu, hein, le journaliste Jérôme Fandor, Jean-Marie.
Ce pâté de campagne plus pur, merveilleux, regarde. Tu boiras et tu mangeras quand tu auras parlé.
48 heures de diète. N'a jamais tué personne, monsieur le commissaire. De plus, c'est excellent pour la santé.
Allons, allons, un bon mouvement parle.
Mais voilà deux jours que vous me posez les mêmes questions. Je vous ai dit tout ce que je savais.
Oh, je ne peux plus.
Ça va. C'est très mauvais pour les nerfs, monsieur le commissaire.
Je vais faire ça, je vais. Tiens, tu vas voir. Dis donc, ton article, il était faux, hein?
Mais c'est exact, il était faux.
Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai?
Ben, c'est pourtant vrai.
Mais qu'est-ce qui est vrai, que tout le monde croit qu'il était vrai?
Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux.
C'est pourtant vrai qu'il était faux. Oui, enfin bon, alors, admettons ce mensonge. Alors, pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti?
Justement, parce que j'avais menti.
Tu mens! Il ment!
Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais...
Oh non, suffit, tais-toi!
Non, écoute.
Mais je ne te permets pas de me vouvoyer! Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer, ça suffit, hein! Ça suffit, hein! Écoutez, visiblement cet homme est épuisé et il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule!
Alors c'est très drôle, hein, évidemment, ça marche très très bien. Et bon, sur cette période, hein, on peut dire que De Funès accède vraiment au vedettariat.
Ah ben là, c'est une sacrée rampe de lancement quand même. Tournée coup sur coup, Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas et Le Corneau. Je pense qu'il y a plus d'un acteur qui rêverait qu'il lui arrive pareille opportunité sur une seule et même année. Alors, même si on ne peut pas présager encore des succès de ces films, et en l'occurrence, on peut encore même moins présager que Le Gendarme de Saint-Tropez va faire l'objet de 5 suites sur 18 ans, que Fantomas va faire l'objet de 2 autres suites, et que Le Corneau va être un succès considérable. Mais là, c'est vrai que, bah, ça y est, Louis de Funès est maintenant complètement sur une autre planète, si j'ose dire. Il est parmi les plus grandes stars de cette époque-là, grâce à ces 3 films. Et ensuite, évidemment, ses cachets vont devenir beaucoup plus importants, devenir mirobolants, et il est littéralement assailli de propositions. C'est un homme qui, à ce moment-là, a déjà 50 ans, donc je pense qu'il arrive à un âge où n'y croyait plus. Mais voilà, comme quoi tout peut arriver après 18, presque 19 ans dans le cinéma, dont une bonne partie de ces années a galéré, et ben ça y est, le succès arrive enfin.
Et là, bah, on l'a entendu dans cet extrait, hein, c'est vraiment, là on a vraiment le personnage de Funès, en plus qui est en contrepoint, voilà, avec Jean Marais, qui est très 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 calme, et c'est vraiment, voilà, il y a une marque de fabrique, quoi.
Oui, c'est évident, parce que c'est vrai que Fantomas, à la base, ce sont quand même des romans assez noirs, c'est censé, alors, on réalise, André Hunebelle, le réalisateur, fait une sorte de comédie policière, mais il est censé quand même y avoir une intrigue à la base, s'agissant de Fantomas, une intrigue policière, mais c'est vraiment une époque où on essaye un petit peu de lorgner du côté de James Bond, donc on a un Fantomas qui dispose de quantités de gadgets, c'est vraiment un émule finalement d'Arsène Lupin et de James Bond, et Louis de Funès est censé amener le pendant comique, on va dire. Au fond, comme c'était le cas lorsque André Hunebelle avait réuni Jean Marais et Bourvil dans les films de KPDP, Le Bossu et Le Capitaine. Et là, Louis de Funès a parfaitement bien compris quel était le rôle qui devait lui être dévolu, et honnêtement, au fur et à mesure des 3 épisodes de Fantomas, il tire littéralement la couverture vers lui. Ce qui veut dire qu'à la fin, dans le dernier épisode de Fantomas, on est plus sur un film comique, une intrigue policière. Et très clairement, Louis de Funès occupe tout l'espace. Et alors que dans le premier film, il est censé être le faire-valoir de Jean Marais, dans le dernier épisode, c'est vraiment les rôles se sont inversés.
Et bon, je pense qu'il faut dire un mot de la grande vadrouille, hein, voilà, qui arrive un petit peu plus tard et qui est vraiment un immense, énorme succès. Hein.
Bah, les superlatifs sont de mise quand il s'agit de la grande vadrouille. Ce film sort à la fin de l'année 1966. Il faut réaliser ce que ça représente. Plus de 17 millions d'entrées. Vous imaginez déjà aujourd'hui, ça paraît, c'est rarissime pour un film d'atteindre 17 millions d'entrées. Dans un pays qui compte à l'époque 15 millions d'habitants de moins qu'il y en a aujourd'hui en France. Donc je vous laisse imaginer ce que représente un succès tel que celui-ci. Certes, Le Corneau avait déjà très bien marché, 11 millions et des poussières d'entrées, mais là, 17 millions d'entrées, c'est absolument astronomique. Ça l'est pour Gérard Houry, ça l'est pour Bourvil et Louis de Funès, qui sont les deux acteurs principaux. Et puis, c'était un pari, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, parce qu'on regarde ce film qui est souvent rediffusé à la télévision, mais aborder la période de l'occupation allemande, qui n'est terminée que depuis 22 ans, on est en 66, sous l'angle comique, il fallait quand même oser. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu iconoclaste de prime abord, mais tout le monde s'est laissé emporter. Et d'ailleurs, vous évoquiez en préambule mon parcours, même le général de Gaulle s'est laissé emporter, puisque le film a été projeté au Palais de l'Élysée pour monsieur et madame de Gaulle, et au demeurant, alors plus Yvonne que Charles de Gaulle a beaucoup apprécié ce film qui a été vu avec toute la famille de Gaulle. Donc vraiment, voilà, la Grande Vadrouille fait partie de ce panthéon du 7e art, oui.
Alors pour finir, j'aimerais aborder un des films de la fin de carrière de Funès, hein, L'aile ou la cuisse, que nous projetons à l'occasion du festival. Alors le film met en scène le critique culinaire Charles Duchemin, qui vient d'être élu à l'Académie française pour son ouvrage sur le goût et la cuisine. Et son pire ennemi est l'infâme Tricatel, empereur de la cuisine toute faite, dont le slogan est « Ne mangez plus, bouffez ». Alors on écoute tout de suite un extrait dans lequel Tricatel, interprété par Julien Guillaumard, et Duchemin, interprété par De Funès, se confrontent lors de l'enregistrement de l'émission « Tous les coups sont permis » avec Philippe Bouvard dans son propre rôle en maître de cérémonie.
Je crois que votre fils est en difficulté.
Ah non! Ah non, il n'a pas le droit, hein! Il n'a pas le droit!
Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux. Un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un Médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien, Château Léoville-Lascaz, 1953.
Exact.
Alors, bon, on retrouve dans ce film de Funès comme on le connaît. Et là, dans cette scène, il est un petit peu plus sobre, malgré tout. Et alors, pouvez-vous nous en dire plus, Mathieu Jaja, sur la genèse de ce projet qui a été marqué par un malheureux événement dans la vie de Funès?
C'est le film de la Renaissance, parce qu'effectivement, Louis de Funès sort de très gros problèmes de santé. En fait, il a été victime d'un double infarctus en 1975. Dont il se remet difficilement. Et conséquence de cette hospitalisation, c'est que les assureurs deviennent frileux. Comment peut-on couvrir un acteur qui va tourner pendant 2-3 mois? Christian Fechner, qui est un jeune producteur, lui tient absolument à faire tourner Louis de Funès. Il a une grande admiration pour Louis de Funès et c'est lui qui va se battre, mais vraiment pied à pied contre les assureurs pour pouvoir quand même couvrir Louis de Funès le temps de quelques semaines. Et donc ce tournage va d'ailleurs plutôt même très très bien se passer. L'entente entre Louis de Funès et Coluche sera excellente. Et puis ce film aborde un sujet de société, vous l'évoquiez à l'instant, c'est le commencement de ce que l'on a coutume d'appeler la malbouffe dans ces années 70, les restaurants d'autoroute. Et Louis de Funès, naturellement, lui incarne au contraire le défenseur d'une gastronomie traditionnelle avec ce fameux guide du chemin dont tout le monde aura compris que toute ressemblance avec le guide Michelin ne serait que pure coïncidence. Mais c'est vrai que c'est un vrai phénomène de société que l'on fait le choix d'aborder en 1976 et c'est très nouveau. Et le film a du reste très très bien marché. Je pense que le public avait hâte aussi de retrouver Louis de Funès que l'on n'avait pas vu depuis 3 ans, depuis les aventures de Ravi Jacob au cinéma.
Et donc c'est intéressant hein, sur cette thématique effectivement de la malbouffe. Et on dit que sur la fin de carrière hein, de Funès, il choisissait un petit peu ses thématiques aussi.
C'est exact. C'est le cas aussi dans la Zizanie où il est beaucoup question de la lutte contre la pollution, de l'environnement, c'est vraiment une thématique qu'on commence tout doucement à aborder, mais qui n'occupe pas la même place qu'aujourd'hui dans le débat politique, et même quelques années plus tard, quand il tourne la soupe aux choux, c'est-à-dire le retour à la tradition, le fait de défendre aussi la vie rurale par rapport, face à l'expansion économique et au développement des villes. Louis de Funès voilà, arrive à un tel statut qu'il peut s'offrir le luxe à ce moment-là, non seulement de choisir ce qu'on lui propose, mais presque, j'irais pas jusqu'à dire d'imposer, mais en tout cas de donner des orientations sur les thématiques qu'il souhaiterait voir abordées dans ses films. Et c'est comme ça qu'il tourne effectivement les derniers films de sa carrière.
Et alors L'aile ou la cuisse, hein, c'est aussi la confrontation avec la nouvelle génération, hein, donc là en l'occurrence Coluche, qui n'était pas d'ailleurs prévu hein, à la base.
C'était pas le choix initial. Louis de Funès devait partager l'affiche avec Pierre Richard, qui était une valeur montante du cinéma depuis le début des années 70, qui avait déjà tourné sous la direction d'Yves Robert, Le Grand Blond avec une chaussure noire. Mais Pierre Richard est revenu en fait sur son engagement, selon la version officielle, en tout cas celle que a eu l'occasion régulièrement de répéter Pierre Richard, le scénario ne l'emballait pas. Il trouvait que le scénario n'était pas d'assez grande qualité. Et donc, le deuxième choix s'est porté sur Coluche, qui est un illustre inconnu, mais enfin très très peu connu. Coluche n'a jamais encore tourné de film dans lequel il a un rôle aussi conséquent, si ce n'est peut-être le film de Patrice Lecomte, qui n'avait pas du tout marché, les WC étaient fermés de l'intérieur, qui avait été tourné l'année d'avant, mais qui avait été un flop total. Et de fait, oui, Louis de Funès accepte ce choix, il ne connaît pas Coluche, on lui dit que c'est pas du tout le même registre que le sien, mais il se laisse convaincre, parce qu'il considère qu'il est bon aussi, qu'il puisse toucher une autre génération. Et le tournage s'est tellement bien passé qu'à la fin, Louis de Funès demande à ce que le nom de Coluche soit accolé au sien, c'est-à-dire au-dessus de l'affiche. Louis de Funès Coluche, dans un film de Claude Zidi, L'aile ou la cuisse.
Donc plutôt bienveillant sur cette nouvelle génération.
Bien sûr.
Bien merci, Mathieu Jaja. On va terminer en musique. Alors vous aurez sans doute reconnu la partition de Raymond Lefebvre hein, dans la soupe aux choux de Jean Giraud, sorti en 1981. Alors c'est l'avant-dernier film de Louis de Funès, hein, où il partageait l'affiche avec Jean Carmé et Jacques Villeret. Merci Mathieu Jaja pour ce moment partagé autour de Louis de Funès. Alors nous n'avons pas été exhaustifs hein, ni sur sa carrière, ni sur les points abordés hein, dans votre ouvrage, et j'invite nos auditeurs à se procurer l'ouvrage. Je rappelle les références, Louis de Funès, La traversée du siècle, paru aux éditions Privas. Merci Mathieu.
Merci Rémi, merci beaucoup.
C'était Cinézoom, l'émission qui parle cinéma, l'épisode hors-série numéro 1 consacré à Louis de Funès en compagnie de Mathieu Jaja. Je remercie Dig Radio, partenaire du festival, qui nous a permis cet enregistrement et ceux qui suivent. Car oui, il y aura d'autres épisodes hors-série proposés à l'occasion du 12e festival du film de Fontenay-le-Comte, dont je rappelle que vous pourrez trouver toutes les informations sur notre site internet festivalfilmfontenay.com. Allez, salut à tous et à très très vite sur les ondes de Dig Radio.
Elle était bien celle-là.
Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.